Voici Carl Bélanger.
Je vais profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne année à Éric Lantier. Bonjour Éric.
Bonne année Carl.
As-tu pris des résolutions pour 2023 toi?
Oui, j'ai pris la résolution de ne pas prendre de résolution.
Ah bon, ça c'est un classique ça. Il y en a de plus en plus qui font ça. Évidemment, quand tu prends pas de résolution, tu peux pas échouer.
Non.
Hein?
Mais j'ai décidé de faire un bilan puis de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer par contre.
OK, mais c'est ça va dans le même sens un peu.
Ouais.
Sans prendre un engagement ferme. Hein, cette promesse solennelle et formelle qu'on prend le soir du jour de l'an pour l'année qui vient. Parlant de faire des bilans, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, pour cette fin de 2022, là, les derniers jours de l'année?
Ben, c'est le bye-bye, hein? C'est un phénomène culturel, le bye-bye. Écoute, j'étais tout petit, là, les premières années du bye-bye, je les ai connues là, ouais. Avec Olivier Dumont. Et puis,
Olivier Guimond.
Guimond, pardon.
J'ai dit Olivier Dumont, c'est le frère de Mario.
Ouais. Alors, c'est ça. Mais, et moi, ce qui m'a marqué, c'est que les Québécois, on aime et on est capable de vivre avec l'autodérision.
Oui.
Ouais.
Oui, OK.
Ce qui m'a allumé, c'est j'ai écouté les coulisses du bye-bye. Et à la toute fin des coulisses du bye-bye, une des dernières déclarations, c'est celle de Sarah-Jeanne Labrosse qui a dit « Ça fait du bien de rire des choses qui sont pas drôles. » C'est là que je me suis dit « Ouais, dans le fond, là, le bye-bye, c'est une forme d'autodérision collective parce que quand on rit de nos leaders, de leurs gaffes, c'est un peu de nous autres qu'on rit parce qu'ils nous représentent. »
C'est nous qui les avons mis là.
Ben c'est ça, on les a choisis, ils nous ressemblent. Fait que, et c'est le fun de voir que socialement, on est capable de rire de nos incohérences, de nos mauvais coups. Et ça veut dire qu'on assume à quelque part certains de nos défauts, puis ça détend l'atmosphère. Et je trouvais ça tellement génial, comment Sarah-Jeanne l'a dit, et tellement que Christophe Huss, dans les pages du Devoir, hier, a écrit ceci, « Comment rire de choses et d'une année pas drôle? » Alors, ça rejoint ce que Sarah-Jeanne Labrosse disait, et je trouve que c'est intéressant de voir qu'on est un peuple qui est capable de rire de soi.
Un qui a eu de la misère à rire de soi, par exemple, c'est Éric Duhaime, qui a réagi fortement à la parodie qu'a fait de lui. Là, c'est Patrick Huard qui l'imitait. Puis il l'a pas pris, Éric Duhaime. Là. Sur les médias sociaux, il était pas content.
Non, il était pas content. Mais en même temps, il était content qu'il y avait des ressemblances. Les mimiques étaient mourantes. Moi, là, quand j'ai trouvé Patrick Huard savoureux, il l'a tellement bien imité. Là, son jeu de main, ses expressions faciales, c'était de toute beauté.
C'était bien travaillé.
Oui.
Puis bon, hein, comme disait ma mère, si tu ne vaux pas un rire, tu ne vaux pas grand-chose.
Exact. Hein? Mais je ne sais pas si tu as remarqué, PSPP et Gabriel Nadeau-Dubois ont été absents.
Absents, oui, j'ai remarqué ça. Je m'attendais, moi, justement, à ce qu'on parle du serment du roi puis qu'on fasse des choses comme ça en profondeur parce que ça a été un événement marquant pour la fin de l'année. Il faut croire que ça n'a pas fait la cote, comme on dit.
Exactement.
On s'est pas rendu là. OK, mais maintenant, parlons de 2023. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal pour 2023?
Bien, c'est Antoine Trépanier qui m'a mis la puce à l'oreille. En vendredi dernier, il a publié un papier sur le journal Le Droit. Et il y a des grandes possibilités, des grandes chances que 165 000 fonctionnaires fédéraux demandent un droit de grève, se lancent en grève en 2023. Ça semble être un incontournable. Les raisons, la réduction des journées de télétravail, on en a parlé la semaine dernière. Et, le gouvernement offre un peu plus de 2 % d'augmentation, ce qu'eux autres jugent inacceptable.
Mais l'inflation est à 6-7
%.
C'est normal. C'est essentiellement lorsqu'on propose une augmentation de 2 % alors que l'inflation est à 7, ce qu'on propose, c'est une diminution nette du pouvoir d'achat et du salaire qui rentre, là.
Oui, exactement. Puis je trouve que leur demande est raisonnable, 4,5 %. Et je pense que c'est une bonne occasion pour Pierre Poilievre de démontrer ce qu'il est capable, de pousser Mona Fortier, la présidente du Conseil du Trésor, dans les cadres. Parce que, oubliez pas, hein, Pierre Poilievre a été ministre de l'Emploi et du Développement social sous le gouvernement Harper. Il a tiré les couteaux avec l'administration publique. Il sait de quoi il en est question. Alors, ça va être une bonne occasion pour démontrer qu'il est capable de pousser le gouvernement.
Ce qui est intéressant, Poilievre, évidemment, c'est pas vu comme étant l'allié principal des syndicaux. Mais ce qui va être intéressant, c'est que si les fonctionnaires prennent ce vote de grève et vont effectivement en débrayage, Que va faire l'allié du Parti libéral du Canada, Jagmeet Singh, qui les maintient au pouvoir alors que ses alliés syndicaux sont en grève?
Mm-hmm.
Particulier comme situation.
Ben oui, ça c'est sûr. Mais si j'étais Poilievre, là, ce que je ferais, c'est que pour montrer que je suis un bon joueur, mais en même temps, je ne veux pas transgresser mes principes, je dirais au gouvernement fédéral, au gouvernement libéral, je dirais... On devrait établir une commission parlementaire sur l'avenir et l'efficacité de la fonction publique.
Mm.
Là, à ce moment-là, tu obliges tout le monde à travailler pour le bien commun. Et là, tu pousses l'État à devenir plus efficace et en même temps, tu dis on est obligé de travailler ensemble. Donc, tu as l'air d'un bon joueur à ce moment-là.
C'est quoi sa position à Poilievre sur le télétravail? Je pose la question comme ça, j'ai aucune idée.
Ben, c'est sûr que lui, il vise l'efficacité. Et il vise aussi la liberté.
Ah, la liberté de travailler à maison?
Ben oui!
Ben oui, ça fait du sens. C'est cohérent. Toujours en 2023, qu'est-ce qu'on souhaite pour l'année qui vient?
Écoute, quand j'ai lu le papier là, de la rédactrice en chef du droit, là, c'est certain qu'elle a misé juste. Il faut changer le recteur de l'Université d'Ottawa.
Écoute, le fait qu'il soit encore en place après tout ce qui s'est passé, le mot en haine, les affaires de fou avec l'ambassadeur de Chine, puis il était sur place, là.
Oui.
Je pense que c'est le temps de changer.
L'affaire Amir Attaran, là.
Ah ben!
Quand justement, il nous a traités de racistes, les Québécois. Écoute, moi, j'ai trouvé savoureuse la déclaration d'Yves-François Blanchette à cet égard. Il dit « Si vous cherchez un endroit où aller défier la liberté d'expression, la liberté d'enseignement ou la liberté de presse, allez à l'Université d'Ottawa. » Écoute, ça veut tout dire, là. Ça va faire 7 ans qu'il est là. Je pense que son temps est révolu. Il est temps qu'on puisse mettre en place une direction qui va mettre en valeur la liberté académique et d'expression. Et qu'elle soit régie par la rigueur, le bien commun puis la dignité humaine.
Le problème avec Jacques Frémont, là, est-ce que c'est un problème de rectitude politique ou si c'est un problème d'un gars qui a peur d'avoir peur puis de prendre des décisions qui s'imposent quand ça arrive?
Mais écoute, regarde l'histoire de l'ambassadeur chinois. Il dit qu'il était pris avec une décision à dernière minute. Ça veut dire que... Il n'est pas capable de prendre la bonne décision. Tu sais, un leader, il a l'instinct, il a le flair, il sait décider. Quand il est dans le feu de l'action, il prend un risque, mais c'est un risque qui est gagnant la plupart du temps. Lui, il est toujours à côté.
Il est toujours à côté, mais il y a aussi le fait que ce gars-là a un background en droit de la personne. Là. Il était président de la Commission des droits de la personne du Québec pendant quelques années avant de venir ici à Ottawa. Donc, toute son approche... Et un peu, disons, influencé par ce passage à cet endroit-là.
C'est sûr.
Et on a comme l'impression que ça nuit à sa prise de décision.
Oui, parce que certainement, il y a certaines valeurs qui ne sont pas incarnées dans cet homme-là. Parce que justement, la liberté académique a trop de limites. Tu ne peux pas avoir un recteur qui a autant de limites sur le plan de la liberté académique et la liberté d'expression. Maintenant, moi, là, si j'étais recteur de l'Université d'Ottawa et qu'il arrive des crises ou des choses comme ça, je pourrais amener, par exemple, des experts internationaux, des experts qu'on a ici à Ottawa pour dire, OK, quand il y a des sujets sensibles, voici comment l'aborder. Si vous avez la réaction de certains élèves, il y a moyen d'exprimer son opinion, faire parler l'élève, puis dire « OK, là-dessus, c'est juste, mais moi, à cause de tel raisonnement, je pense différemment. » Il y a moyen d'encadrer la liberté d'expression de manière à ce que la dignité humaine soit reconnue. Mais de là, d'interdire un débat académique puis un débat d'idées dans une université, pour moi, ça n'a pas de sens.
Ça n'a aucun sens. Et ce qui est le plus malheureux dans le cas de Jacques Frémont, et on termine là-dessus, Éric, c'est que Jacques Frémont... Il va pas au bâton pour défendre les décisions.
Ben, c'est ça.
Il vient jamais en entrevue, ce gars-là. On le voit nulle part.
C'est pas un leader.
Pour réentendre les entrevues de Carl Bélanger, fm1047.ca.